Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime discuter et analyser les comédies françaises, même confinées chez nous. C'est sans doute le dernier enregistrement dit des Confinex, donc c'est mon équipe de Confinos. Et les Confinos ne sont pas des confinis, si vous me permettez l'expression.
Ça commence mal.
Mais en même temps, on est dimanche matin et tu sais pas ce que l'être humain peut produire de médiocre à 10h de matin. Et donc, vous les avez entendus, c'est mes camarades, Perrine Kenson. Bonjour Perrine, comment vas-tu?
Bien, bonjour, ça va. Oh, et les confinettes.
Et Max Besnard.
Ah, ça va?
Ça va, tu vas bien?
Ça va, comme un dimanche matin.
Je sens que tu fais des vibes quelque part dans la campagne.
Je fais des vibes. Tu sais, genre, je me lève le dimanche matin, comme si je suis à la campagne là, aujourd'hui, j'ouvre les rideaux et là je vois des petits oiseaux qui chantent et j'ai envie de chanter avec eux, tu vois. Donc...
Et il y a un truc que les gens savent pas parce que ça a jamais été vraiment intégré dans. Mais c'est que tu fais vraiment des vibes avant tous les enregistrements. Est-ce que tu serais capable de faire une vibe pendant l'enregistrement?
Alors, je pense que, comme tu dis, les gens le savent, puisque ça a souvent été utilisé dans les intros des MDR mode Confinex. Donc, si, je pense que tout le monde est au courant. Et donc, je pense que...
Là t'as la pression.
Quand j'explique le fait que je suis à la campagne, que je vois les petits oiseaux qui chantent et que je chante avec eux, je crois que ça donne un petit peu l'image Blanche-Neige. Donc, voilà, ça permet d'avoir un petit peu le... l'idée de ce qui se passe quand on est avec moi à la campagne le matin, le dimanche.
Ça me donne envie. J'ai l'impression que tu vas arriver avec ton pain et tes croissants. On n'a même pas annoncé le sujet, mais le sujet est de qualité et il faut que je le mette dans le contexte. On va parler des pires comédies. Et comment nous est venue cette idée? C'est que l'un de mes chroniqueurs ici présent...
Déjà, si tu commences par dire l'un, on sait déjà à qui tu t'adresses. L'un ou l'une des chroniqueurs-chroniqueuses.
Chroniqueurs-chroniqueuses. Mais disons, comment dire, celui qui a un piercing au nez, on va dire.
Espèce d'escroc.
M'a dit, en fait, en vrai, on cherchait une idée de sujet. En fait, il me dit, en vrai, les gens, ils aiment MDR quand on dit du mal. Et là, je tiens à dire... d'habitude, on dit les absents ont tort. Non, là, c'est Hugo qui a dit « Non, mais vous savez, moi, je veux dire des trucs positifs. Je vous laisse, je reviendrai pour la suivante. » Donc, c'est... Et là, cette personne me dit « Donc, nous, on veut... » Parce que les gens veulent dire du mal. Donc, c'est dans cette ambiance toxique, presque, qu'a été élaboré ce podcast qui va être un peu rigolo, puisqu'on va revenir sur nos plus mauvais souvenirs, mais aussi... nos souvenirs doux, enfin, qu'on pensait nuls et en fait qui sont plutôt rigolos finalement. Vous allez voir, on a tous vu des daubes pour MDR. Donc on va revenir sur un peu nos souvenirs marquants dans ces dernières années MDR. Et je vais laisser la parole à Perrine plutôt parce que comme ça Max il va pouvoir réfléchir aux conséquences de ce qu'il a. Tu penses bien que tout ça sera ta faute quoi.
Le champion de la délation quoi. Bravo. Merci Damien Andreev.
Je pense que les DM des réalisateurs qui vont se sentir concernés. Je pense que parce qu'il y en a qui sont sur Twitter. Je suis sûr qu'il y en a qui vont entendre ça. Ils vont dire c'est pas possible. Voilà. Et en tout cas je vais laisser d'abord la parole à Perrine. Perrine, dans toutes ces années MDR. Qu'est-ce que tu as comme comédie qui t'a vraiment marqué de par sa nullité ou de par un que t'as envie de partager comme ça de tout après toutes ces années d'MDR
qui vraiment ne me plaît pas, on est bien d'accord,
qui ne te plaît pas et qui je pense je pense que genre si on te dit ah tu fais MDR mais tu regardes des comédies et toi t'essayes de positiver en disant mais non mais il y a aussi des bonnes comédies. Et celle à laquelle tu dis « Ah non, ah là, c'est vraiment pas bon. » C'est par exemple une que tu as vraiment vue pour l'émission et que tu t'es dit « Putain, non, mais qu'est-ce que je regarde ?»
Ah non, non, ça sera un autre sujet, mais pour l'instant, parce que, en fait, moi, c'est pas tant tellement, je pense, une comédie en particulier qu'un groupe...
Oh là là, la langue de bois,
non,
la langue
de bois. Non, qu'un groupe d'amis, de potes, de gens qui travaillent ensemble, qui font des comédies, qui, en fait, moi, ça ne marche pas du tout chez moi, mais même ça me tape sur le système, c'est la bande à Fifi. Moi, je peux pas. Je ne peux pas, ces gens.
Du moment où t'as dit bande de potes, je savais déjà.
Non, mais moi,
mais tu sais quoi, mais je me suis dit, ah, comment tu balances les Robins dès le début? Non,
je pense que je. Alors, si j'essaie d'être un petit peu langue de bois, justement, je dirais, je ne suis peut-être pas de la bonne génération, je ne suis pas faite pour aimer la bande à Fifi, j'en sais rien. Mais le fait est que je trouve ça agressif, je trouve ça souvent. Enfin. Très. Je trouve pas le mot que je cherche, mais en tout cas très.
Homophobe.
Homophobe.
Non, pardon. On va pas rentrer dans le débat tout de suite.
Mais... Oui, mais bon, je n'en pense pas moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est jamais très bien amené, c'est jamais très subtil, c'est jamais très malin. Je trouve que c'est. Mais. Ouais, je donne que des synonymes, mais c'est lourd, en fait. Et je vois pas du tout l'intérêt. Au bout d'un moment, tout tourne en rond. Même celui que je trouverais peut-être le plus. Relativement plus agréable, qui serait Alibi. Mais non, ça me casse les couilles, en fait. C'est-à-dire que vraiment. Et j'en ai marre qu'en fait tout soit fait à la gloire de Philippe Lachaud. Je trouve qu'on laisse pas assez de place à un mec comme Tariq Boudali, et en fait tout m'ennuie chez la bande à Fifi. Et c'est plutôt si on me demande de choisir entre aller voir un film de la bande à Fifi ou me priver de cinéma pendant encore un mois, je vais peut-être me priver de cinéma pendant encore un mois. Je pense que c'est ça l'idée.
Oh putain, ça c'est
violence.
Radical.
Alors
tu sais quoi, il faut que je rebondisse là-dessus, parce que la bande à Fifi c'est quand même un groupe composite. Tu dis Tariq Boudali, le problème c'est que dès que tu as donné la parole à Tariq Boudali, ça a donné épouse-moi mon pote.
Ah là là,
ouais, non, ça c'est terrible. Je trouve que en tant que comédien, je le trouve plus sympathique et plus drôle que Philippe Lachaud. Mais
ouais, c'est vrai que il y a un vrai truc de alors, et tu sais quoi, le pire c'est que on a un ami commun avec Max qui a rencontré Philippe Lachaud. Nous, on rencontre pas les stars, nous on est des gens du peuple. On rencontre pas les stars, mais lui il l'a rencontré. Et il me dit, non, mais il est adorable et tout.
Et je lui dis,
tu sais quoi, je veux bien le croire. Mais alors, quand tu vois le résultat sur la péloche, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est peut-être le moment, quand même, en ce qui me concerne, de lâcher une petite anecdote pour situer. C'est que, en amont de la sortie d'Épouse-moi mon pote, que j'ai noté sur ma petite liste, il est tout en haut de ma liste, là. Au moment de la sortie d'Épouse-moi mon pote, on me propose, dans le cadre de la promotion, de rencontrer Boudali et Lachaud, de faire une petite interview, etc. Et donc, je n'avais pas encore vu le film. Je me fais la séance presse, je sors du truc, mais... Non, attends, je dis des bêtises. Je ne l'ai même pas vu en séance presse, on l'a vu ensemble, en séance régulière.
Et je me demande si ce n'était pas à l'UGC Georges V, Repose en paix, petit...
Bientôt feu, bientôt feu, UGC Georges V.
Parce que c'est un ciné où j'ai vu vraiment, vraiment beaucoup de films dans
les... C'est vrai,
c'est vu Batman de Tim Burton dedans, tu vois.
Ah, ouais, carrément. Ah, c'est... Bon. Mais bon, pour revenir à cette petite anecdote croustillante, donc on me propose l'interview, j'attends la sortie du film, je vais voir avec Daniel, on en ressort complètement atterré. Et j'ai dû rappeler la personne qui m'avait proposé. Vous avez vu, je prends des pincettes pour ne citer personne. Je rappelle la personne pour lui dire non, mais en fait, ouais, je sais pas trop. Ça risque peut-être d'être compliqué sur mon planning. J'essaie de trouver un mytho pour pas lui dire non, mais c'est tellement pathétique que j'aurais honte en fait d'interviewer ces personnes-là. Et dans le cadre de cette promotion, parce que je suis sûr que c'est des garçons tout à fait cool et charmants.
Aucun doute
là-dessus. Et au moment le jour J, tu vois, je me retrouve. Ça se passait sur un événement groupé, on va dire. Et je me retrouve donc dans cet événement.
Je ferme les yeux et j'y suis. Hein.
Je sais que tu sais. Et je me retrouve sur cet événement et la personne me harcèle par téléphone pour essayer de me choper et me faire venir dans son press junket pour que j'interviewe les deux. Et j'ai regardé le téléphone sonner. J'ai renvoyé 10 fois l'appel. Et le lendemain, j'ai fait « Ah, je suis désolé, tu sais comment c'est compliqué ce genre d'événement, il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas toujours
le temps. »
J'ai
un enfant.
C'était pas possible, tellement que j'ai eu honte de voir ce film et honte à l'idée de servir la soupe pour la promo de ce film.
Alors, moi, je veux juste dire un truc pour affiner. Alors d'abord, Je remercie déjà la bande à Fifi d'une chose, c'est que Julien Arrouty n'a pas encore réalisé de film. Donc on ne sait pas encore si c'est le plus mauvais de la bande. Mais je trouve juste, on dit Tariq Boudali, qui a l'air d'être le plus sympa ou le meilleur acteur. Je ne veux pas dire sympa, parce qu'ils ont tous l'air sympas, en fait.
Ils n'ont pas l'air de sales personnes. C'est juste que dès que tu
leur donnes la parole, ils font quand même de la...
Ah bah on dirait qu'il panique et puis c'est n'importe quoi, quoi.
Plutôt de la... Enfin, je veux dire, Épouse-moi, mon pote, est le pire. Babysitting 1 est presque OK, en fait, quand tu réfléchis.
Alors que j'adore Projet X, mais ça, je peux pas.
Parce qu'il est pompé, sur Projet X.
Chef d'œuvre.
Mais Alibi.com, en fait, est peut-être le plus mémorable. C'est-à-dire, il y a quand même un chat qui griffe les couilles de quelqu'un en image de synthèse.
Non, c'est le plus tenu, je pense, peut-être, Alibi.com. Mais après, moi, juste que ça m'intéresse pas. Et je trouve que, ça m'intéresse pas. Mais c'était le plus tenu.
Et donc, on a cité Tarek, on a cité Philippe Lachaud. On n'a pas cité Elodie Fontan.
Bien sûr.
Qui est...
Courageuse.
Qui est le quatrième cerveau de la bande.
Je suis encore en train de réfléchir à ce que je veux dire. et surtout, c'est Rim Kérissi, en fait, qui est la plus intéressante créativement. Rim Kérissi a réalisé ses propres films. Elle a réalisé Paris à tout prix, elle a réalisé Jour J. Et Jour J, comparé à tout ça, je pense que c'est le meilleur... Je ne sais pas s'il fait partie du Philippe Lachauveur.
Pour moi, non. Bah, alors après, voilà,
non,
pas pour
non.
Moi, non.
Ouais. Non.
Mais voilà je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, voilà, c'est celui qui me... Moi, je trouve que c'est celle qui est la plus touchante dans leur organigramme. Je sais pas si leur but, c'est de dominer le monde et tout ça. Mais voilà. Moi, j'aurais dit que c'est la plus touchante. Je tiens juste à dire que leur prochain film... porte ton nom, Max, puisqu'il s'appelle 30 jours Max. Et je pense que c'est... je pense que c'est pour toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais écoute, il y a tous tes acteurs préférés. Il est réalisé par Tariq Boudali, il y a Julien Arrouty, il y a Tariq Boudali, il y a Philippe Lachaud, il y a José Garcia, que je sais que tu adores, et Marianne Chazelle. Je pense que tu vas kiffer.
José Garcia, dont l'un des films... était le premier film que j'ai vu dans le cadre de MDR.
C'est vrai.
C'était à fond.
À fond. Non, et même à fond, je crois qu'on n'a pas fait d'émission.
Non, on n'a pas fait d'émission, mais...
Tu m'as juste accompagné pour le
mais
plaisir.
Mais toi, c'était déjà dans le cadre de MDR.
Et mon optique de regarder toutes les comédies.
Voilà, dans l'optique de regarder toutes les comédies. Et je me rappelle que tu m'avais emmené voir ça. Et tu m'avais demandé, alors, les comédies françaises, t'aimes bien ça et tu voudrais bien en parler. Je t'avais accompagné voir à fond, on était sortis atterrés en se disant bon.
Eh, tu sais, à fond, c'était pas le pire, c'est pas le pire qu'on ait vu ensemble.
Non, mais c'est ça, c'est ce sur quoi j'allais conclure, c'est que, en fait, avec le recul, c'est pas si pire que ça comparé à tout ce qu'on a vu après.
Alors, dans tes souvenirs de ces 5 ans de MDR, Max
Je l'ai dit, hein, Épouse-moi, mon pote, vraiment compliqué.
Mais je suis sûr que t'en as d'autres.
Ah, j'en ai d'autres, bien sûr, j'en ai d'autres.
Parce qu'en général, on parle des bonnes surprises. Je veux dire, l'année dernière, on avait plein de bonnes surprises. Genre, La vie scolaire m'avait plu. Il y avait Yves qui était.
Oh, mal en pis.
Ah, toi, t'aimes pas Yves.
Mal en pis. Très belle expression.
Ouais, genre, il y avait des trucs intéressants l'année dernière.
Mais par contre, c'est pas horrible, c'est sûr.
Nous finirons ensemble.
Oui, non, là, 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 là.
Bon, alors Max,
ah bah écoute,
accouche. C'est quel
écoute, sur ma liste, j'ai ex aequo pour moi, j'ai Nous finirons ensemble, qui est pour moi un vrai, 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 vrai nanar.
Pourtant, t'es souvent en vacances, tu devrais t'identifier à
ces gens riches. qui ont des problèmes de gens riches, des bateaux, des villas énormes au bord de l'eau.
Ah, pour moi, c'est une comédie.
Pour moi, c'est un drame, mais c'est un drame du cinéma, c'est un drame de la quarantaine, c'est un drame de tout, en fait. C'est horrible.
Alors, c'est un drame cinématographique.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Pour moi, c'est une comédie et je me souviens très bien. En plus,
bon, c'est vendu en tant que tel. Attends.
Nous finirons ensemble. Je me souviens très bien du moment où il y a le boyfriend de Benoît Magimel qui a 70 ans, qui est un danseur d'opéra à la retraite. Et il a un accident de vélo.
Il a une sortie de route en vélo dans un virage qui tourne à peine d'ailleurs.
Il a une sortie de route en faisant Ouh là là. Et tu sais quoi? Et tu le vois même pas, il fonce dans un buisson. Et je pense que c'est un des plus mauvaises cascades que j'ai jamais vu du cinéma. Et la salle a rigolé. La salle a rigolé à ça.
Non, non, mais il y a rien qui va dans Nous finirons ensemble. Mais à la limite, ça serait trop facile, c'est tirer sur l'ambulance un film.
Mais
qui...
on est là pour ça aussi.
Ouais,
hein.
Non, mais bien sûr, on est là pour ça. Mais,
on est là pour être jeté.
J'allais dire, il y a un autre ex aequo sur ce dans ce top tier list. Pour moi, c'est Taxi 5. Taxi 5, ouais. C'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai, vrai mauvais film. Excessivement mal écrit, qui véhicule, je trouve, des... Ah, c'est le cas de le dire, véhicule, voiture, taxi.
Wow, je l'ai.
qui véhicule des idées, je trouve, assez gerbantes pour la plupart, et qui n'est pas drôle, qui est vulgaire, qui est bête et méchant, qui ne raconte rien. C'est une catastrophe absolue.
Qu'est-ce que ça raconte ? Si on faisait l'autopsie de Taxi 5, qu'est-ce que ça raconte ?
J'avoue, j'ai pas vu.
Alors, écoute, si tu aimes...
Les taxis ?
Alors, si tu aimes les... Non, mais si tu aimes les blagues un peu sur les handicapés, parce qu'il y a un peu de blagues dans les handicapés, et si tu aimes les blagues sur les gros aussi, puisque c'est assez grossophobe.
Mm-hmm. L'humour scato...
Non,
c'est normal, hein, c'est Gaston Bine, donc...
Moi, j'aime bien l'humour scato, ça peut... Ça, bien
ouais,
fait,
bah, pas systématiquement,
bien fait, scato,
et
ça
pas
t'as
si jourdain.
Pas chez moi.
Non.
Donc, ok, pas chez toi.
Non, puis c'est la glorification d'un certain modèle masculin que je trouve hyper ringard. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce film. Vraiment, il n'y a rien.
Vous me vendez méga bien depuis le début, quand même. Un scato grossophobe, contre les handicapés, et avec un vieux modèle de l'ancien monde, comme diraient les gens maintenant.
De l'ancien monde,
ouais. Ouais, oulala, super.
Non, il n'y a rien qui va. Pour moi, ça a été un grand moment de solitude d'aller voir ce film parce que j'ai dû me farcir les quatre précédents taxis avant d'y aller, que j'avais que toujours pris le soin d'éviter.
T'avais révisé et c'est...
Ah non, mais c'est même pas révisé, c'est que j'ai dû les voir tout court.
Sérieusement.
En fait. C'est que j'ai dû les voir tout court, donc je me suis fait une semaine thématique taxi. Et donc avec cette, j'allais dire, en point d'orgue Taxi 5. Et ça a été un moment d'extrême solitude. J'ai trouvé ça tellement mauvais. J'étais seul en plus pour aller voir le film. Et vraiment, je crois que c'est...
Ça, je sens un reproche. Je sens qu'on n'a pas pu le voir ensemble, donc tu me reproches.
Effectivement, on n'a pas pu le voir ensemble et c'est un reproche.
Écoute, si tu veux, on se fait une séance DVD à la maison pour se rattraper.
Non, je pense que ça va aller. Ça va aller parce que je te rappelle quand même qu'on a défié... On a quand même assumé ensemble peut-être ce qui est, je crois, le pire film de l'histoire d'MDR, qui est Bad Buzz.
Non, moi je mets pas Bad Buzz dans le pire film, mais je pense que c'est le plus gros incident industriel devant mes yeux, ouais.
C'est-à-dire... Le car crash au ralenti, quoi.
Ah non, mais genre le truc, tu comprends dès la première seconde que ça va pas aller pendant une heure et demie.
Ça me rappelle cette très très vieille...
Temps ressenti, 3 heures.
J'avais vu un reportage sur la construction de la tour Eiffel et c'était il y a des années, j'étais gosse.
Je sais pas où tu vas.
Attends, un truc qui m'avait marqué, c'est un moment, tu as un monsieur, donc imagine, c'était genre il y a un siècle, tu vois, tu as un monsieur qui se dit qu'il va sauter de la tour Eiffel du dernier étage avec juste une sorte de comment ça s'appelle, de wingsuit. Donc une sorte d'aile volante qui ressemble plus à une cape, tu vois. Et donc le truc a été filmé, tu vois le mec qui saute de la tour Eiffel et qui tombe évidemment en chute libre et qui s'éclate la tronche en bas, le pauvre. Et je crois que aller voir Bad Buzz, ça fait exactement cet effet-là. C'est tu sais que le gars va sauter, tu sais qu'il a aucune chance de réussir, mais il en est persuadé que ça va le faire. Et jusqu'au bout, il se dit non, mais c'est bon. C'est un petit peu cette fameuse image qu'on voit sur internet avec le chien qui est en train de boire son café dans une maison tout enflammée en disant
oui,
tout va bien.
This is fine.
Bad Buzz, c'est exactement ça.
Moi, j'ai eu ça en allant voir un film qui s'appelait Jacou le Croquant à l'époque. Jacou le Croquant. Ah, première phrase du film, c'est oh, bah non, c'est mal parti. C'est littéralement la première phrase du film. Et là, tu fais OK. Et franchement, jusque-là, c'est l'autoroute génial. Du Nymphs. Et c'est vraiment horrible. Mais horrible.
Alors, si vous permettez, je vais parler de mes pires expériences de MDR. Ou même je vais extrapoler, je vais même parler de mes pires expériences de comédie de ces dernières années. Pour moi, il y a évidemment...
Est-ce qu'il y a Si j'étais un homme dedans ?
Pour moi, c'est toute la filmo d'Audrey Dana. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de Si j'étais un homme, qui est vraiment une des pires comédies que j'ai jamais vues de ma vie. Qui pourtant a un sujet qui, s'il est utilisé avec finesse et intelligence, peut être vraiment bien. Et il me rend à chaque fois triste parce qu'il y a Alice Belaïdi. Et Alice Belaïdi, il n'y a pas à dire, elle est une bonne comédienne. Il y a Christian Clavier. Et comme disait Max, l'autre. qui avait chroniqué le film, il a dit quand Christian Clavier arrive dans ce film, t'es soulagé en fait.
C'est
un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, je pense vraiment. Mais j'étais préparé puisque Sous les jupes des filles.
J'allais te le dire, bah oui.
Sous les jupes des filles, c'était un des trucs les plus. C'est ce que j'appelle trahi par les siens. C'est-à-dire, tu dis ah non, mais il y a plein de nanas impliquées, plein de gens de talent. Il y a Isabelle Adjani, il y a Marina Hans, il y a Géraldine Nakache. Enfin, tu te dis, il y a plein de choses. Et là, tout d'un coup, tu découvres que les plots, c'est-à-dire les scénarios qui impliquent toutes les filles, Marina Hans, elle est juste cruche. Adjani, elle est hystérique. Laetitia Casta, elle pète quand elle est stressée. Et ils ont tout un scénario comme ça avec un point faible, en fait. Et c'est horrible. C'est vraiment et le moment où j'ai su que ça allait nulle part, c'est quand Julie Ferrier, qui était contrôleuse de bus, si je me souviens bien, elle se cogne sur un poteau et elle a une bosse sur la tête et tout d'un coup elle devient nymphomane à cause de cette bosse. Et là je me suis dit merde. Ouais. Je me suis dit merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et ça c'est vraiment une des pires comédies que j'ai jamais vues. Et pourtant, vous savez, les gens, ils se focalisent genre sur les trucs dont on parle, genre les pas très normales activités, enfin les trucs dont les gens se moquent naturellement, mais c'est pas ça dont il faut voir le truc plutôt insidieux. Si j'étais un homme et sous les jupes des filles, c'est pire que épouse-moi mon
c'est
pote.
C'est pas si insidieux, hein, sous les jupes des filles, c'était vraiment dur. Hein. Et puis moi, je peux te dire que en tant que femme, l'idée d'un film qui se vendait comme une comédie féministe, etc., je pense qu'on a rarement aussi mal parlé des règles. On a rarement aussi mal parlé, finalement, de ce que moi, j'avais la sensation de vivre au quotidien. Enfin, moi, je me suis sentie, comme tu le disais, trahie par les miens. J'ai regardé des trucs, je fais, mais on vit pas la même vie, vous et moi. Hein. C'est clair, hein. On vit pas la même vie de femme, hein. je vous confirme. Non, c'était gênant.
Alors, si je décris les règles de ce film, c'est assez incroyable, puisque les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais la première scène, c'est Audrey Dana qui se met un tampax en fumant un joint et les gouttelettes de sang en image de synthèse éclatent à l'écran pour ensuite former le titre du film.
C'est des pailletés.
Et tu sais quoi, si, ça, c'est peut-être le meilleur passage du film. C'est peut-être le moment le plus créatif. C'est le moment où ils se disent « Ah non, mais là, on y va à fond. » Et tu sais quoi, ça m'a fait plaisir de faire ce segment sans parler de Nicolas Bedos, sans parler de Amour et Turbulence, que je déteste de tout plus profond de mon être.
Non.
Ah non, moi, j'aime pas les rom-com quand. Mais c'est vrai que c'est un problème, parce qu'il n'y a plus assez de rom-com, donc on devient un peu tolérant avec n'importe quel rom-com, j'ai l'impression. Vu qu'on a parlé à un moment de ces moments difficiles de MDR, je pense que, et ça, je compte sur toi, Perrine, parce que je sais que t'es très doué pour ça. Je sais que c'est ton talent, c'est de trouver la fleur dans le purin. C'est de trouver, ce truc qui va être drôle dans une comédie pourrie. Ce truc qui, à un moment, tu, je sais pas, je prends une comédie au hasard, genre tu regardes les municipaux et tu te dis, ah, c'est vraiment pourri. Là, il y a une vanne qui est géniale et qui te sauve le film et tu te dis, ah, j'aurais un truc à raconter de rigolo dans MDR. Quelle comédie voudrais-tu sauver? Et je sais que t'es doué pour ça parce que tu défends des trucs parfois pas indéfendables. Faut pas dire ça, mais plutôt audacieux. Tu es la plus talentueuse des hot takeistes. Tu fais des hot takes vraiment, vraiment affûtés. Je t'ai entendu défendre G.I. Joe devant un parterre de mecs qui sont là, qui étaient là, genre, ouais, John McTiernan, James Cameron, et là, tu sors G.I. Joe. Moi, j'étais estomaqué ce jour-là. Donc,
même pas peur.
Allez, balance estomac-moi ce matin de dimanche matin.
Eh bien, en fait, j'ai remarqué que c'est une comédie, je ne l'ai pas vue dans les MDR, parce que finalement, c'est pas si longtemps que ça que je suis MDR. Et je ne l'ai pas vue, vous l'avez traité. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, ça me fait beaucoup rire, c'était Budapest. Budapest de Xavier Jans, qui s'est fait défoncer, je pense, par à peu près tout le monde. Je sais pas si vous l'aviez vu ou aimé ou pas du tout.
Je crois qu'on n'avait pas fait de sujet à ce moment-là, mais c'est intéressant d'y revenir parce que c'est un cas très très particulier de réalisateur que j'aime bien, qui s'est retrouvé sur un projet visiblement qui n'était pas le sien et qui a donné le maximum, quoi.
Oui, mais c'est un projet de... Enfin, c'est Xavier Jans, quoi, qui fait le film. Et honnêtement, moi, j'aime énormément le film parce que déjà, il est très emprunté de la part de Xavier Jans au cinéma de genre, en vrai, qui se gêne pas du tout à faire des séquences un peu décalé par rapport à la comédie, où on n'a pas peur de mélanger finalement le genre et la comédie. Et en même temps, c'est un film qui traite ses personnages féminins très très bien, alors qu'au début, on a l'impression qu'au contraire, ça va être un truc d'entre-couilles qui vont faire des fêtes d'enterrement de garçons en Hongrie, etc. Mais finalement, les personnages féminins joués par Alice Belaïdi et Alix Poisson sont vraiment absolument délicieux, pertinents, et vont reprendre la main au fur et à mesure du film.
Oui, faut expliquer, elles vont devenir les cocus, et ensuite c'est elles qui vont reprendre la main de l'entreprise.
Ah bah, non, au début elles sont exclues par ce truc d'entrecouille de garçons qui veulent créer leur propre entreprise en Hongrie, notamment vie de garçon, et elles vont se faire avoir, enfin il y en a une qui va se faire tromper, et l'autre va se faire se sentir eue, et finalement c'est elles qui vont reprendre les choses en main, qui vont sauver, finalement les vrais héros de ce film, c'est elles. Et moi, c'est ça que je trouve absolument passionnant, mais tout ça fait beaucoup, beaucoup d'humour. Monsieur Poulpe donne presque trop pendant ce film, et ça fait du bien. Jonathan Cohen et Manu Payet, bah, en fait, dans ces moments de faiblesse dans le film, les moments où ils affirment qu'en fait, ils sont impuissants et perdus, bah, je trouve que c'est assez osé dans une comédie qui se veut être, encore une fois, une comédie de grosses couilles. Donc moi, je trouve que c'est vraiment... En fait, c'est tous les clichés que t'attends de cette comédie, ils sont dedans. Mais en fait, comme le film est plutôt intelligent, il s'amuse à les détourner pour retourner le principe de départ à la fin. Et je trouve que, en fait, Budapest n'a pas eu le crédit qu'il mérite. Et que, finalement, moi, Monsieur Poulpe en slip sur l'autoroute, ça me fait marrer, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. J'aime beaucoup.
Bon, écoute, tu l'as plutôt bien défendu. Je me souviens de ce qui m'avait posé problème dans le film, c'est que j'ai trouvé que le début était génial en fait. Le début, ça nous parlait de mecs en école de commerce qui font leur boîte. Et je trouvais ça génial.
Parce qu'eux ne viennent pas. C'est un film qui est très social en vrai. Parce qu'en fait, eux,
le début
eux
est
sont
super
pas,
social. Il est super le
parce
début.
Parce qu'eux viennent son école de commerce par des histoires aussi de comment on appelle ça, de quotas. Ils sont là parce qu'ils venaient des écoles de la banlieue, il y avait une sorte de quota de machin, donc ils se sont jamais sentis à leur place par rapport à tous les petits friqués qui étaient dans l'école de commerce, et qui ont, en fait c'est une sorte de revanche sociale, et je trouve qu'en fait le film est hyper intéressant là-dessus, et donc en fait ils vont mal s'y prendre, et ils vont être aidés et sauvés et soutenus. Moi je trouve qu'en fait c'est un film qui est vraiment bien plus malin que ce que tout le monde veut bien lui prêter sous ces histoires de blagues un petit peu graveleuses et d'entrecouilles. Moi je trouve que c'est vraiment plutôt malin, Budapest. Donc sauvons Budapest.
Si ça se moquait un petit peu moins des pays de l'Est, je serais partant, mais si c'est que c'est un truc qui me touche, c'est que d'abord il y a eu cette comédie, si tu te souviens, avec Jonathan Cohen qui part en vacances, je crois que c'est Première vacances. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ils choisissent les pays de l'Est et c'est toujours un petit peu « Regardez, les pays de l'Est, c'est des bouseux. » Et venant de l'Est, je trouve ça toujours un peu dur. J'aimerais bien qu'on lâche la grappe aux pays de l'Est.
Mais Budapest pousse le curseur en disant en gros « Mais c'est le cliché que vous avez et vous avez tort. »
C'est le cliché que vous faites, oui, parce que c'est vous qui voulez avoir des vacances. Parce que ça, par contre, ça existe.
Ouais,
c'est des gens qui passent en vacances. Je pense que Budapest, tu vois, à titre... Parce que Budapest n'est pas un titre marquant, en fait. Je pense que le titre de la ville ne suffit pas à expliquer le film et ce que tu vas voir. Mais je trouve ça mieux en termes de titre que, mettons, Gangsterdam. Gangsterdam, tu sais pas où tu vas marcher. Tu sais, c'est les mauvais titres. Je pense que Gangsterdam aussi est un mauvais titre pour plein d'autres raisons. Max,
ouais.
Je suis sûr que tu as quelque chose à sauver.
Perrine a fait ça tellement bien que ça va être compliqué de passer après, j'avoue. Je me suis quand même pas mal posé la question pour préparer cette émission.
C'est Taxi 4.
non, Taxi, c'est ni fait ni à faire. Désolé pour les fans de Taxi, mais pour moi, c'est...
Babysitting 2.
Non, alors, tu sais quoi, tout à l'heure, Perrine a évoqué Alibi.com. Alibi.com, c'est peut-être effectivement une comédie qui se tient sur pas mal d'aspects. Et bon, voilà, ça serait trop facile, je pense, de choisir celui-ci. J'ai pensé à Bad Buzz en me disant, mais peut-être que Bad Buzz, après coup, tu sais, on n'arrête pas d'en reparler, d'y réfléchir, mais non, définitivement, ça sera pas le film culte maudit, parce que ça reste tout simplement un mauvais film et point barre. J'aurais pu évoquer. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de Brillantissime aussi dans le genre, les moments de solitude vécus pour préparer des MDR.
Ouais, ça c'est vraiment.
C'est une parenthèse. J'ai réfléchi aux Trois Frères 2 aussi, et en me disant, bah, finalement, peut-être que les Trois Frères 2 est un accident industriel monstrueux, mais il y a peut-être quelque chose à garder, sauf que là, tout de suite, j'ai aucun souvenir du film, j'ai même pas une vanne qui me revient, donc c'est tant pis. On a déjà évoqué plein de fois l'embarras du choix avec cette fameuse scène complètement folle de Franck Dubosc en prêtre écossais, donc j'ai envie de dire on va pas le remettre encore une fois sur le tapis. J'avais déjà parlé aussi du manoir pendant le confinement, le film des youtubeurs, une sorte de comédie horrifique des youtubeurs français qui était assez marrante et qui se tient, mais voilà. Je vais plutôt choisir, une fois de plus, tu me connais Daniel, je vais choisir une œuvre un petit peu maudite, peut-être. Moi, j'aime défendre les causes perdues. Alors, je vais parler un instant de J'ai perdu Albert.
Oh là là, mais c'était ma comédie. Enfin bon, non,
pas. Vas-y, c'était quoi ?
Ma comédie, dans la préparation de l'émission, c'était ma comédie la pire que j'ai dû voir pour MDR. C'était J'ai perdu Albert.
Il y a deux choses, il y a deux raisons qui font que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. D'une part, j'avais déjà évoqué en enregistrant l'émission, mais j'ai beaucoup d'affection, j'ai beaucoup d'amour pour l'œuvre générale, j'allais dire, de Stéphane Plaza. Alors je parle de Stéphane Plaza, non pas l'homme qui a une franchise d'agence immobilière, hein, mais vraiment...
L'homme à qui tu dois tout, hein, ton appartement.
je trouve qu'il a un talent... en tout cas en tant qu'animateur, c'est un personnage qui est rigolo, qui évoque la sympathie, c'est vraiment, je trouve, quelqu'un de frais dans le paysage audiovisuel français, et moi ces émissions me font marrer, donc voilà, c'est genre je pose le cerveau et je regarde Stéphane Plaza pendant 20 minutes et ça me fait marrer. Et donc j'avais beaucoup d'attentes autour de ça. Alors, beaucoup d'attentes, j'exagère, mais j'étais quand même curieux d'aller voir J'ai perdu Albert, et j'avoue que j'ai pas été déçu parce que Plaza fait du Plaza et il le fait très très bien. Après, effectivement, c'est un mauvais film, il raconte absolument rien d'intéressant, voilà. Mais il y a deux choses. C'est la première, à partir du moment où tu t'intéresses un minimum au Stéphane Plaza univers, t'es obligé de passer par J'ai perdu Albert pour avoir la photographie complète, hein. Donc déjà en ça, c'est un élément très important du Stéphane Plazaverse. Et ensuite, il y a une scène qui est hilarante. Je ne sais pas si je peux la spoiler, je pense que Daniel, tu dois savoir à quelle scène je fais référence tout de suite.
Je bois tes paroles.
Tu bois mes paroles. Bah, c'est la fameuse scène où il tombe dans l'eau... Il est sur sa planche de surf, ouais. sa planche à voile, et il tombe dans l'eau et avec un cri absolument lamentable. C'est une scène qui se passe en arrière-plan.
J'ai vu des épisodes de Reine du Shopping mieux joués que ça.
Il y a quelques moments, je trouve, comme ça, de grâce, presque fulgurance dans ce film. Il y a celle-ci, il y a des moments où tu vois que Stéphane Plaza, évidemment, jouer la comédie, c'est pas son métier, hein. il est animateur télé. Il y a notamment une scène dans la première fois où il comprend et il apprend qu'il a donc l'esprit d'Albert Einstein qui vit en lui. Il fait une sorte de tu sais, il a littéralement la mâchoire qui en tombe, et il le joue tellement mal que je trouve que c'est magique, vraiment. Il y a quelques moments comme ça, c'est des petits sursauts de génie, je trouve, dans l'approche, et je trouve que c'est quand même hyper osé d'avoir mis Stéphane Plaza en tête d'affiche d'une comédie française, et rien que pour ça, je veux que ce film soit réhabilité dans le grand Hall of Fame MDR. Dans mon Hall of Fame, attention, je précise.
Alors, moi, j'ai que l'embarras du choix, quelque chose que je peux sauver. Vous savez que j'aime la gêne, j'aime les moments de malaise. Les vrais bons moments de malaise, c'est les moments qui me donnent la chair de poule et dont je peux parler. Mais je vais pas parler de ce film avec Didier Bourdon. Ou Didier Bourdon, ou deux belles femmes se battent pour Didier Bourdon.
Mais parce qu'il est très drôle, ce film, de toute façon. Tu peux pas le mettre dans les mauvais, il est hyper drôle.
Oui, bien sûr. Ah merde, attends, comment il s'appelle? Merde, j'ai trop de mémoire.
Garde alternée,
pardon, excusez-moi.
Garde alternée.
C'est mal... Et grand film du malaise. Et moi, il y a des micro-moments de malaise. Moi, ce que j'aime, c'est parfois, ça joue à un tout petit détail. Et il y en a un film dont j'ai jamais parlé, j'ai jamais évoqué. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a oublié. Mais est-ce que vous vous souvenez de Jamais le premier soir avec Alexandra Lamy?
Oh là là, oui.
Oh là 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 là.
Oh là là, oui.
Et alors, Jamais le premier soir, c'est... Pourtant, il y a une idée, un concept génial, en fait. C'est une comédie sur une fille qui est complètement désabusée par l'amour et elle s'en remet au guide de motivation. Parce que ça, c'est vraiment... Genre, c'est un vrai sujet à la mode, les guides de motivation. C'est pas juste Marie Kondo, c'est il y a guide de motivation pour être plus opérationnel dans la vie, pour être plus séductrice. Et là, il y a un vrai sujet, c'est que au bout d'un moment, le sujet déraille, ça ne parle plus du tout du sujet. Et tout d'un coup, Alexandra Lamy va tomber amoureuse de Jean-Paul Rouve. Et Jean-Paul Rouve est présenté dans le film comme un loser absolu, genre maladroit, pas très beau, pas vraiment le héros, enfin le protagoniste d'une rom-com. Enfin moi en tout cas j'en tombe pas amoureux, et pour moi c'est un vrai problème déjà quand je tombe pas amoureux d'un personnage. Je tombe pas amoureux non plus d'Alexandra Lamy, qui m'énerve très profondément dans ce film. Mais où je veux en arriver, c'est qu'à la fin il y a une scène, c'est les 30 dernières secondes, c'est la dernière minute. C'est que Jean-Paul Rouve est un libraire. Et j'adore d'abord, c'est le truc le plus charismatique du film, c'est qu'il est libraire. J'adore les libraires. Il faut soutenir les libraires en ce moment. Donc allez chez votre libraire, même si c'est Jean-Paul Rouve. Et donc, Jean-Paul Rouve est libraire dans le 18e. Je suppose que c'est le 18e. J'ai l'impression de revoir, c'est peut-être la rue Ordonneur ou quelque chose comme ça. Et il a une vitrine gigantesque, une vitrine panoramique sur la rue. Et à la fin... il décide de s'emballer avec Alexandra Lamy, et littéralement c'est suggéré hein, qu'ils vont baiser sur des bouquins. Et alors pourquoi ce moment est mémorable, c'est que ils vont baiser sur des bouquins, et là il y a tout le quartier qui se met à regarder la vitrine. Et je pense que genre la réalisatrice s'est pas dit tiens c'est super weirdo ce qui est en train de se passer, il y a un couple en train de baiser, et là il y a tout le quartier qui est en train de regarder, et c'est l'image de fin avec le staff qui se déroule avec le comment il s'appelle les crédits du film qui sont en train de se dérouler, et plus le temps passe et plus il y a des gens qui s'amassent pour regarder Jean-Paul Rouve en train de Ken Alexandra Lamy, je sais pas ce qui se passe, puisque c'est suggéré, et c'est très très balaisant, et honnêtement, j'en ai des frissons, et si vous avez vraiment 1h30, je pense que ça fait 1h30, mais en temps ressenti, ça doit faire plus, mais voilà, si vous avez du temps à perdre sur une mauvaise comédie, mais sur un truc, c'est vraiment, il y a un build-up. C'est pour moi, c'est tu vois, c'est endgame, c'est-à-dire t'as vu 22 mauvaises comédies romantiques, et là c'est celle-là, c'est le endgame absolu. Là c'est pour moi, c'est Thanos qui est en train de se passer. C'est mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a tous des passants qui passent, mais il y a aussi des mamans avec des bébés et tout qui s'arrêtent devant la vitrine, genre non, oh regarde,
c'est Tchernobyl ton truc. Quoi.
Regarde,
c'est...
Jean-Paul Rouve est en train de niquer, Alex, ils sont en train de s'emballer, c'est en train de ça se trouve il sur des très très beaux bouquins, hein, j'en sais rien, hein. Mais voilà, comme c'est suggéré, ça crée le malaise, et moi j'aime le malaise.
Oh là là.
Et je peux pas vous laisser avec autre chose, et ça je pense que c'est une carrière entière assujettie au malaise. Et je sais pas si je vais choquer Perrine, parce que Perrine c'est peut-être l'idole de sa jeunesse, mais je vais parler de Patrick Bruel.
Oh non, et... vas-y, go for it.
Non, ça va, ouais, c'est bon, t'es...
Non, j'ai jamais alors... été Patrick. Non.
T'as jamais été Patrick? Bon, bah ça va. Peut-être Max, je sais que t'aimes la musique, donc peut-être que tu aimes Patrick Bruel.
Espèce de blaireau.
Non. Alors, Patrick Bruel, ce que j'aime bien, c'est qu'il a c'est un bon acteur, je trouve. Il sait être touchant. Et il y a un moment où Patrick Bruel a arrêté d'être bon acteur. Il est devenu le Vin Diesel français.
Oh.
Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que j'ai un hot take.
C'est très très hot même. Hein. C'est bouillant.
C'est qu'il est devenu intouchable. Et donc, on s'est mis à lui écrire n'importe quoi en disant qu'il est génial. Et dans Le Code Achandé, il devient un super médecin qui guérit, genre il guérit tout le monde et tout. C'est voilà, il y a un truc qui se passe dans le code enchanté. Je pense que le twist c'est code enchanté et après ensuite il y a Paris Manhattan qui est une rom-com. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Paris Manhattan a un peu vieilli, vous allez voir pourquoi. J'aime bien les malaises. Hein. C'est Alice Taglioni et qui tombe, qui est amoureuse de Woody Allen. Et elle rencontre Patrick Bruel qui se dit bah écoute je vais essayer de comprendre Woody Allen pour essayer de séduire Alice Taglioni. Donc déjà c'est un setup qui pour beaucoup de gens a beaucoup vieilli, je sais pas pourquoi. Et attention, accrochez-vous, à la fin il y a un caméo de Woody Allen. C'est super malaise. Tout est malaise. Et là Woody Allen dit de Patrick Bruel, il dit à Alice Taglioni, mais ce mec est extraordinaire, allez-y. Allez-y, genre, allez-y, couchez avec lui. Pécho Patrick Bruel, s'il te plaît. C'est littéralement ce qu'il dit avec ces mots de Woody Allen dans un hôtel de luxe, parce que ça a été tourné entre quatre portes, du genre, il était de passage à Paris dans un hôtel de luxe, et ils lui ont dit, vous voulez pas nous faire un petit caméo? Et c'est super malaise. Et en fait, j'adore les comédies. J'adore, voilà, si j'avais à sauver quelque chose, et je sais que je suis méchant avec certaines comédies, mais les petits moments de malaise, pour moi, c'est génial. Et Patrick Bruel nous en a donné encore d'autres. Je tiens à dire qu'il a joué dans Tu veux ou tu veux pas, avec Sophie Marceau, où il est sex addict. Ça a très mal vieilli aussi, hein, je vous préviens tout de suite. Et ils essaient de se racheter une conduite en devenant conseiller conjugal avec Sophie Marceau. Donc tout le but du film, c'est que Sophie Marceau, qui est belle comme l'amour, et Patrick Bruel qui dit non, moi il faut pas que je ken pendant tout le film, c'est ça, hein, c'est nul. En plus, Sophie Marceau, elle est chaude comme la braise, elle est genre c'est vraiment une idée complètement con de comédie. Et à la fin, et encore une fois, le film dure pas longtemps, mais il faut rester jusqu'au bout. Tout d'un coup, à la fin, il s'emballe et tout d'un coup, la scène est téléportée. Le monde, c'est en train de se morpher en lit. Et honnêtement, il y a un petit côté très, très malaisant dans ça, dans cette mise en scène. Je suis désolé, peut-être je vous survends un film, mais Tu veux ou tu veux pas est une comédie super cringe. Si vous aimez les comédies un peu cringe, et je peux pas ne pas faire mention de, encore une fois, Ange et Gabriel. Et Ange et Gabriel, c'est le dernier. Encore une fois, c'est un talentueux. Il va rencontrer, c'est Patrick Bruel qui rencontre Isabelle Carré. Et là j'ai un bon souvenir parce que j'étais tout seul dans la salle et je me disais, mais qui d'autre est intéressé par ça? Et en fait, il essaye de reconquérir Isabelle Carré en lui disant que son fils, c'est son fils naturel. C'est une histoire complètement con. Mais là, je ne vais pas vous dire que la fin est cringe. Tout le film est un peu cringe. Je vous conseille, si vous aimez les comédies romantiques qui vous mettent un peu mal à l'aise, ça, voilà. J'aime bien le mal à l'aise. Je peux pas les recommander normalement dans MDR en vous disant allez les voir parce que on s'engage aussi dans MDR. On note à la fin, on donne un indice de prix. Mais voilà, la carrière de Patrick Bruel, souvent, c'est pas que le prénom. C'est aussi des moments de malaise. Est-ce que vous voulez terminer en vous disant c'est quoi votre pire comédie ever? Est-ce que vous avez envie de mettre une dernière bastos dans un film?
Non. Moi, j'aurais bien. Moi, le pire que j'avais vu, c'était donc on a perdu Albert ou j'ai perdu Albert là. Donc.
À toi, c'était vraiment le pire.
J'ai perdu Albert.
Ça m'étonne beaucoup quand même. Enfin, ça m'étonne beaucoup. Non, parce que c'est pas un grand film. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est pas un film qui véhicule des idées particulièrement. Enfin, qui véhicule des idées gênantes, etc. C'est juste pas super drôle.
Non, mais pas de haine.
Ouais, voilà, d'accord. Okay.
C'est juste que dans tous les films que j'ai vus pour MDR, j'en ai pas vu qui. C'est juste que celui-là, c'est vraiment nul. Mais en termes d'écriture, c'est nul. Tout est nul.
C'est le seul dont j'ai gardé le ticket de cinéma.
Ah, c'est mignon. Tu l'as fait encadrer?
Bah, j'aimerais bien le faire dédicacer un jour si je rencontre Stéphane.
Je comprends.
Et toi, Max, est-ce que t'as une dernière bastos à mettre?
Écoute, la dernière bastos, je reviens un instant sur Brillantissime, que j'ai hésité à le mettre tout au long de ma liste, parce qu'on parle beaucoup de films, des comédies du malaise, des idées véhiculées qui sont parfois vraiment à la limite, c'est même plus du politiquement incorrect, c'est limite, ça va beaucoup plus loin que ça même. brillantissime. Moi, ce qui m'a énormément dérangé dans ce film, au-delà du fait que j'ai pas rigolé du tout, c'était le fait que ça véhicule une image de la vieille bourgeoisie française qui m'épuise et qui est rabâchée à longueur de comédie.
Et niçoise, en plus, genre, ça donne vraiment une... c'est supposé donner une bonne image de Nice. Moi, ça marche pas, parce que j'adore Nice, et c'est l'anti-Nice pour moi.
Ah, je sais même pas si c'est Nice en particulier, mais il y a quelque chose je trouve, d'excessivement gênant dans ce film, dans ce qu'il représente. Alors, petit rappel, hein, c'est donc une femme assez riche, assez aisée, assez, on va dire un petit peu à l'ancienne de la bourgeoisie qui est incarnée par Michel Larocque et qui se retrouve le soir de Noël quittée par son mari, sa fille qui part pour aller passer Noël avec son petit copain, sa meilleure amie qui veut pas lui parler, etc. Donc les vrais problèmes de la vraie vie et qui va se retrouver à tomber amoureuse de son psy incarné par Kad Merad, quoi.
Et en plus, il y a une photo d'elle sur son bureau.
Il y a absolument rien qui va. Il y a absolument rien qui va dans le scénario de ce film.
Je comprends pas très bien ce que c'est que la.
Dans la façon dont il est réalisé, dans la façon dont il est écrit, dans son rythme, c'est vraiment, mais ça tombe à plat en permanence et surtout, c'est tellement. Pétri de bons sentiments qui en fait n'en sont absolument pas. Je trouve que c'est un film qui est très prétentieux à la fois dans ce qu'il montre et dans ce qu'il raconte. Et vraiment, ça a été pour moi, je crois, le peut-être le pire moment que j'ai vécu au cinéma pour MDR dans le sens un ennui et une gêne du début à la fin.
Et puis juste pour préciser un truc, surtout je veux m'excuser auprès de vous deux. J'ai fait croire que quelque chose était pas mal pendant cet enregistrement et j'ai eu le temps de vérifier. Sur Wikipédia, j'ai dit que Jour J de Rim Kérissi était pas mal. Et là, j'ai regardé dans les notes, il y a marqué « Le 19 décembre 2018, une vidéo de la chaîne YouTube Copy Comic diffuse une scène d'introduction du film plagiée d'une vidéo de Danasil McLendon 3, ainsi qu'un extrait d'une série américaine How I Met Your Mother. » Et néanmoins, Copy Comic tient à préciser dans la vidéo que ce plagiat ne vient pas des comédiens du film, mais des scénaristes. Selon les commentaires sous la vidéo, Stéphane Kazadjian serait l'auteur du plagiat puisqu'il avait déjà également scénarisé Pattaya, dont certaines scènes avaient été plagiées des sketchs de Malik Bentala. Et donc du coup, j'ai dit du bien de cette comédie. Dans le doute, il va falloir que j'analyse et que je mène l'enquête. Je suis désolé, mais vous n'avez pas été dupe de. Vous n'avez pas été dupe. C'est moi qui me suis qui a été. J'ai été abusé par Jour J. Je crois qu'on en a fini. On a dit beaucoup de mal de comédie. J'espère que ça vous a défoulé un petit peu parce que ça m'a fait du bien de repenser à toutes ces bonnes comédies de malaise, tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Et vous savez pourquoi ? C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que ça nous rend plus forts. ça nous a endurcis. Et il y a un truc de solidarité entre nous. On sait très bien qu'il y a des comédies, on y va en traînant les pieds, mais on sait qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on va en rigoler, et c'est ça aussi que les gens apprécient dans MDR. Enfin, j'imagine, j'espère. C'est vrai que les gens, ils sont là pour nous entendre en train de défoncer des films.
C'est ça.
Merci à vous deux. Merci Perrine. Merci Max
merci
d'avoir été là.
De rien.
Merci à la Touraine. Je te libère parce que tu... Tu vas aller visiter la Touraine à bord de ton Touraine.
C'est nul.
C'est dur, mais j'ai faim. Il est dimanche matin. Je remercie.
J'ai faim. Alors, il est dimanche matin. C'est pas un créneau horaire. Hein.
Il y a pas de causalité.
Ah, il est déjà dimanche matin.
Il y a pas de causalité. Mais vous savez quoi? Je suis pas auteur. J'ai pas écrit mon texte. Je remercie d'abord Solène et Quentin. Qui ont réalisé les épisodes durant ce confinement. Donc merci à eux, merci du soin qu'ils ont apporté pour essayer de faire briller des personnes et surtout de faire briller la vibe de Max. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est qu'il faut beaucoup étalonner, hein, si j'ai bien
merci,
compris.
Merci Solène et Quentin.
Oh là là, c'est ça qu'on veut. Perrine, elle est atterrée, je suis sûr. Elle se dit putain, il faut que je retourne à mes trucs.
Elle est en train de se dire, c'est le pire dimanche matin ever. Quoi.
C'est quoi, tu te lèves dimanche matin, tu peux pas savoir que tu vas parler de la bande à Fifi, de Stéphane Plaza.
Ah, Stéphane Plaza, la légende.
Ah, Stéphane, si tu les écoutes, on pense à Watt. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Je tiens juste à dire, on a parlé de beaucoup de comédies mauvaises, mais il y a un truc, c'est qu'on a parlé de beaucoup d'autres comédies mauvaises au cours de différentes saisons. Et c'est pas parce qu'on a parlé que de celle-là qu'il y a que celle-là. Il y en a plein d'autres.
Oh là, oui.
Je vous conseille de regarder le backlog de l'émission. Il y a beaucoup de comédies, vous pouvez taper dedans, il y a beaucoup de mauvaises rom-coms, il y a eu aussi les comédies rachetées par Netflix au dernier moment, il y a plein de trucs vraiment, vraiment dégueulasses. Si vous aimez les mauvaises comédies, si vous avez du mauvais esprit, c'était un épisode un peu mauvais esprit, mais il a fallu se défouler, parce que on a, tout le reste du temps, on essaye de trouver, comme je disais, la fleur dans le purin. Il fallait qu'on se défoule un tout petit peu.
Je crois que c'est plus un épisode qui pourrait être connu d'utilité publique.
Ouais, oui, parce que on a donné. La semaine prochaine ou la prochaine émission, on va se retrouver avec un épisode un petit peu différent puisqu'on va normalement se retrouver en live, les yeux dans les yeux. J'ai hâte de manger des cookies avec vous, les loulous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.